Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis Charlotte Cobel, magistrate et conseillère juridique à Tracfin actuellement. Alors, le service de Tracfin, qui est un service administratif qui dépend des ministères de l'économie et du ministère du budget, n'est évidemment pas un service spécialisé en matière de cybercriminalité. Mais comme on l'a dit déjà plusieurs fois, l'argent étant manifestement le nerf le plus puissant de la guerre, il va de soi que Tracfin a la cybercriminalité comme enjeu majeur dans son quotidien. À la fois parce que nous sommes nous-mêmes une base de données, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir, et à ce titre nous sommes vulnérables à la cybercriminalité, aussi parce que par définition, comme nous étudions des flux financiers, nous décelons autant que nous pouvons, en tout cas nous travaillons à déceler des phénomènes de cybercriminalité au travers des flux financiers générés directement par cette cybercriminalité ou blanchis. Et enfin, parce que la cybercriminalité a totalement transformé les techniques de blanchiment et rend beaucoup plus complexe le travail des uns et des autres. Alors, simplement parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien le service de Tracfin, et ça me paraît important de faire un tout petit rappel, Tracfin est une cellule de renseignement financier administrative créée en 1990 sous l'impulsion du GAFI, qui est le Groupement d'Action Financière, donc un organisme international, qui a eu comme émanation lui-même du G7, qui a comme vocation effectivement d'assainir les relations économiques. On est bien au cœur de notre problématique, notamment en luttant contre le blanchiment dans un premier temps du trafic de stupéfiants, puis de la criminalité organisée, puis de toute infraction, et en luttant à partir de 2001 sur le financement du terrorisme. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais bon, il y a quand même aussi un enjeu de financement du terrorisme derrière toute la cybercriminalité. Le rôle de Tracfin n'est pas un service de police judiciaire, donc par définition, je serais beaucoup moins... j'aurais des exemples un peu plus succincts par rapport à la pratique que peuvent avoir les enquêteurs sur le terrain. C'est un service qui a pour mission de recueillir des déclarations de soupçons faites par des professions privées qui sont obligées d'être vigilantes sur ces fameux flux financiers. Tracfin analyse avec une analyse documentaire, comptable, mais sans autre pouvoir que cette analyse de demander des documents complémentaires. Et éventuellement, si l'information est pertinente, externalise cette information d'abord vers l'autorité judiciaire s'il y a une infraction, éventuellement vers d'autres services administratifs que sont les services fiscaux, les autres services de renseignement ou bien nos homologues à l'étranger. Donc c'est un service administratif en amont de la phase judiciaire. C'est important pour comprendre le détail de ce que je vais vous développer. Alors notre rôle principal, c'est de tenir une base d'informations. Une base d'informations dans laquelle nous sont signalés des flux financiers atypiques, donc pas encore criminels, hein, pas encore qualifiés par le professionnel et pas en mesure de les qualifier. Donc nous avons aujourd'hui presque 200 000 informations de ce type-là. C'est rien par rapport à nos amis américains, c'est rien par rapport à nos amis anglais, mais enfin, on a quand même 200 000 informations. Notre première mission, c'est d'éviter évidemment, pour le coup, de se faire pirater. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas tombés dans l'attaque d'il y a quelques mois de Bercy, et c'était quelque chose de très important pour nous, parce que tout le dispositif repose sur la bonne volonté des déclarants, lesquels, comme je vous l'ai dit, sont des professions privées, donc les banques, les notaires, les avocats, toutes les professions du chiffre et du droit, tous les marchands de biens de grande valeur, le milieu du jeu, les casinos, etc. Tout le milieu de l'assurance, donc toutes ces personnes-là, s'il y avait le moindre doute sur la confidentialité et la sécurité du dispositif informatique, du jour au lendemain, elles arrêteraient de nous envoyer des informations, déjà qu'elles ne sont pas très heureuses de le faire, ça serait extrêmement rapide. Donc confidentialité, sécurité, protection, c'est déjà pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et nous avons une équipe d'informaticiens qui peut faire rêver un certain nombre d'autres ministères, il faut quand même l'avouer. Alors, plus concrètement, par définition, comme nous étudions les flux financiers atypiques, nous sommes souvent amenés à repérer des phénomènes de cybercriminalité. En tout cas, nous faisons des scénarios parce que nous n'entendons pas les gens, ce n'est pas une enquête contradictoire. Donc on se contente d'interpréter les flux financiers qui nous sont soumis. Et nous faisons effectivement de plus en plus de scénarii de cybercriminalité. Nous décelons toute la partie, entre guillemets, escroquerie, etc., qui vous a été développée par le lieutenant-colonel Fraissinet. Nous décelons notamment toutes les techniques d'investissement financier frauduleux promues par Internet. Je pense aux pyramides de Ponzi, à la Madoff, mais il y en a des beaucoup moins importantes, mais tout aussi préjudiciable pour les internautes. tout ce qui est vente de faux médicaments, tout ce qui est vente de produits dangereux pour la santé, tout ce qui est trafic de dopants, etc. Par définition, nous repérons les flux financiers et comme nous sommes aussi nous-mêmes sur, évidemment, une de nos techniques d'investigation, c'est Internet, nous arrivons à faire le lien entre ces flux financiers et ces ventes parfois, enfin souvent frauduleuses. Nous repérons souvent aussi les abus de faiblesse ou abus de bêtise, ou bon, pas toujours qualifiables pénalement, mais quand même la vente à distance de prestations, je dirais de prestations ou bien la bonne aventure, ou bien de prestations de conseils diverses et variées dans lesquelles les personnes se précipitent pour payer leur bonheur à venir. Nous repérons les flux financiers liés à la prostitution et à tout ce qui concerne la vente de photos pédopornographiques ou pornographiques. Et voilà, donc alors on repère les paiements hein, par définition, donc là en direct. Voilà. Tout ce qui est lié à la contrefaçon, avec une difficulté importante pour nous, c'est que même si PayPal est incontestablement un partenaire sécurisé, il n'est pas logé en France, donc les informations de PayPal n'arrivent pas aux autorités françaises en direct, alors même qu'on fait 80% du marché de PayPal. PayPal est logé au Luxembourg. Heureusement, nous nous entendons bien avec nos homologues luxembourgeois, c'est tant mieux, mais enfin, il faut savoir que ce marché-là, en tout cas, n'est pas soumis à la vigilance des professionnels français, ce qui est un problème. Voilà. Et puis, évidemment, tout ce qui est escroquerie classique à la Nigériane, etc., etc. Alors, sont apparues des typologies que je qualifierais de nouvelles, hein, qui sont par exemple les typologies liées aux jeux en ligne. Vous savez qu'il y a eu un débat extrêmement important l'année dernière avec l'autorisation des jeux en ligne en France. La loi a été, enfin, Tracfin a été très présent dans les discussions et la loi, heureusement, a abordé un certain nombre, pas mal de choses, notamment en imposant que les opérateurs légaux en France aient une représentation en France, ce qui permet quand même au moins de pouvoir taper à une porte et de ne pas être obligé de traverser la planète pour aller rencontrer les opérateurs. Mais il faut savoir que même avec toutes les garanties prises par la loi, on sait très bien que les jeux en ligne sont facteurs effectivement de délinquance. Par exemple, une technique de blanchiment aujourd'hui bien connue, c'est la table de poker en ligne. Nos plus grands informaticiens sont capables de se retrouver à des heures tardives de la nuit, alors même que normalement tout ça est aléatoire et vous ne pouvez pas savoir contre qui vous jouez, vous ne pouvez pas prévoir contre qui vous jouez. Les génies de l'informatique arrivent à se retrouver, notamment aux heures tardives de la nuit, sur la même table et donc à s'échanger de l'argent, et ce qui est évidemment une technique de blanchiment relativement difficile à déceler. On repère aussi des phénomènes de faux paris ou de paris trafiqués, entre guillemets, dans des sports auxquels on s'attend éventuellement, comme le foot, mais aussi dans des sports beaucoup plus surprenants, en tout cas comme le tennis ou le basket, où on s'aperçoit finalement on a des doutes sur le non-traficage des résultats quand on voit tout d'un coup des flux financiers se précipiter, enfin des paris se concentrer sur telle ou telle issue de la rencontre sportive à un moment T qui interpelle, tout d'un coup le match se bascule et hop, tout le flux financier se met sur un pari alors même que c'est pas du tout naturel. Voilà, donc des faux paris en ligne avec beaucoup d'argent qui arrive sur des compétitions parfois improbables de nationales, pardonnez-moi pour ceux qui aiment le sport, d'argent qui arrive d'Asie, de toute la planète, sur des compétitions qui apparemment n'intéresseraient que le département, mais bon, voilà. Donc des paris, des trafics de paris et donc une technique à la fois de blanchiment et bien évidemment d'escroquerie relativement classique. Alors, sans m'étaler quand même, donc on est quand même aussi dans des, par définition, dans l'utilisation des nouvelles technologies dans tout ce qui est financement du terrorisme, puisque l'appel entre guillemets aux cotisations, si on peut dire ça comme ça, se fait le plus souvent quand même par le canal d'Internet et par toutes les communications électroniques, l'utilisation de Skype, l'utilisation d'Internet pour pouvoir à la fois appeler à des cotisations très minimes, donc pas facile à déceler pour nous, hein, de l'argent qui remonte vers des associations. On ne sait pas quelle est nécessairement la raison de la cotisation. Alors parfois, on arrive à faire le lien entre effectivement des messages qui sont sur Internet et des réseaux de... alors c'est l'inverse du blanchiment. Hein, le financement terroriste, c'est de l'argent en général légal qui va et qui peut-être un jour aura une destination finale illégale. Voilà, donc ça, c'est toutes les infractions bien mieux développées par M. Frissinet que par moi, que nous arrivons à déceler grâce aux flux financiers. Voilà, avec effectivement cette idée qu'il y a plusieurs degrés de cybercriminalité. Il y a, je dirais, les gens très localement, presque en franco-français, même s'il peut y avoir une dimension internationale, mais enfin, très en franco-français, qui vont utiliser le canal des nouvelles technologies pour appâter une victime, pour vendre, etc., pour promouvoir leur escroquerie. Et puis évidemment, des enjeux qui nous dépassent parfois, même souvent, avec des dimensions internationales. Parce qu'en effet, les hautes technologies ont permis incontestablement de transformer les méthodes de blanchiment. Donc là, c'est entre guillemets le cœur du sujet. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut dire qu'il y a des délinquants qui sont spécialisés dans le blanchiment et que de plus en plus, il y a une séparation entre, si je caricature, le braqueur de la banque et celui qui va blanchir l'argent. Parce qu'effectivement, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées. Et ça rend très difficile pour nous, enfin pour la justice, de condamner les uns et les autres à juste titre, parce qu'il y a une séparation des missions et que faire le lien entre l'infraction initiale et le blanchiment n'est pas toujours évident. Or aujourd'hui, dans notre droit pénal français, il faut encore un lien entre le blanchiment et l'infraction sous-jacente. Il y a donc des techniciens du blanchiment qui se retrouvent sur les réseaux pour offrir leurs services, moyennant évidemment une certaine contribution, aux délinquants que je dirais primaires, qui peuvent être effectivement de gros délinquants ou de petits délinquants, ou de moyens délinquants, et qui utilisent donc toutes les hautes technologies pour blanchir. Alors, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de vulnérabilités dans les dispositifs, je dirais, financiers, qui permet ces techniques développées de blanchiment. Par définition, on a quand même de plus en plus de mal d'identifier les opérateurs, hein, ça va de soi. On a de plus en plus de mal à tracer les opérations, donc il y a des gens qui sont spécialisés pour éviter la traçabilité des opérations. Il y a des cryptages qui ne sont pas toujours accessibles aux autorités de police et de justice. Donc tout ça, ce sont des techniques utilisées par les blanchisseurs les plus compétents, ou même très simplement. On a toute la problématique de la monnaie électronique, des cartes prépayées, de tout ce qui se transite par simple technique, par simple appel, par simple SMS ou par simple envoi d'informations par un portable. La carte prépayée, donc, qui est maintenant autorisée sur notre territoire, mais qui est déjà depuis très longtemps dans d'autres territoires. Chez nous, elle est plafonnée à 2000 ou 6000 euros, 2000 euros sans identifiant. On peut donc avoir des cartes qui contiennent 2000 euros et qui ne sont pas, dont on ne connaît pas le propriétaire. On peut aller jusqu'à 6000 euros, mais là, il y a quand même des identifications. Certains pays sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Or, le douanier, quel que soit son flair, a quand même du mal à déceler l'argent dans une carte bancaire. C'est quand même plus facile quand c'est des billets ou des pièces sonnantes et trébuchantes. Voilà. Donc, une vraie difficulté liée à la carte prépayée, dont on peut, semble-t-il, sur certaines... Alors, je ne crois pas en France, mais dans d'autres pays, donc ça viendra évidemment avec la libéralisation des moyens de paiement, on peut décider du changement de propriétaire à distance avec simplement un code sur un téléphone portable. C'est vous dire comme il est facile dans cette hypothèse de tracer les opérations financières. Tout ce qui est service bancaire en ligne est par définition pour nous un sujet une vulnérabilité parce qu'on ne voit pas le client. Hein, donc le client peut être manipulé ou le client peut être remplacé ou le client peut utiliser d'autres identités. Tout ce qui est vente aux enchères par Internet était aussi un sujet important pour nous puisque l'acquisition de biens puis la revente est effectivement une technique de blanchiment classique. De manière générale, tout ce qui est commerce électronique et puis l'accessibilité de places non coopératives, donc les distances étant complètement comprimées, la possibilité de transférer de l'argent vers des pays non coopératifs ou à fiscalité attractive, etc., en quelques nanosecondes, évidemment, complique pour nous sérieusement la tâche. Alors, quelques exemples quand même qui ont un peu défrayé la chronique pour vous mesurer la difficulté de la tâche. Vous avez peut-être entendu parler de du grand carrousel de TVA sur le marché du CO2 qui a été mis à jour il y a pratiquement un an par les autorités françaises et autorités européennes. Donc le marché du CO2 était un marché qui permettait d'acheter, de vendre du droit à polluer, quelque chose de totalement immatériel. Voilà. Droit à polluer affecté tout aussi immatériellement par les États On a eu le droit à un bon vol de droits à polluer avec des hackers qui se sont introduits sur le compte de droits à polluer de l'État grec. Bon, déjà, première chose extrêmement classique. Et puis surtout, on s'est aperçu que probablement 2 ou 3 mois après l'ouverture du marché en 2007, on avait déjà plus de 40% du marché qui était en réalité frauduleux parce qu'on pouvait transférer du droit à polluer en moins de 45 minutes, donc une opération extrêmement rapide, opération totalement dissociée de l'opération bancaire. Donc qu'est-ce qu'il y a comme meilleure technique de blanchiment que d'avoir des transferts de biens, en plus totalement immatériels, en l'espèce de droit à polluer, qui ne sont pas rattachables à des transferts d'argent, voilà, une bonne machine à blanchir, et comme en plus ils n'ont pas reversé, n'ont pas déclaré et pas reversé la TVA, ils faisaient 20% à chaque tour. Voilà, en une journée, ils ont fait largement les plus grands criminels. On a vu de l'argent arriver de Russie, d'Israël, de Chypre, etc. On a pu faire 20% à chaque 45 minutes de sommes tout à fait importantes et reblanchir automatiquement, dans la foulée, etc. Ça a tourné pendant 4 ou 5 jours et les 7 ou 8 générations des délinquants sont protégées financièrement, à mon avis, sans difficulté. Sachant que même si on arrêtait, ce qui est le cas, il y a au moins une personne qui est sous les verrous, les personnes impliquées dans ce grand carrousel, on peut dire que la prison est un accident industriel limité, parce qu'un ou deux ans au frais, par rapport aux millions d'euros qu'ils ont gagnés, c'est absolument rien. Alors, toute la difficulté avec cet exemple-là, c'est la virtualisation des relations commerciales. En réalité, on peut avoir de véritables activités commerciales non déclarées, non repérées, et on peut aussi avoir de totalement fausses activités commerciales, totalement repérées, qui traduisent en réalité tout un dispositif criminel qui justifie des flux financiers qui ne devraient pas être. Donc c'est la difficulté, c'est qu'à la fois on a du vrai, avec des escroqueries, etc., et parfois on a surtout du faux, des semblants de relations commerciales qui justifient des flux financiers pour justifier l'origine de l'argent. Voilà, c'est notamment par exemple les casinos. Exemple type, une société est constituée uniquement pour convertir de l'argent illégal en argent légal. Elle achète des biens sur un site virtuel qui est dans un centre offshore, donc en dehors de la France. Ça peut être un casino, ça peut être des bourses en ligne, etc. Ça peut être aussi du commerce tout à fait concret. Et les gains, elle peut revendre, et les gains en apparence acquis transitent par plusieurs sociétés écrans pour revenir en France de manière totalement légale. Et ça, pour nous, c'est extrêmement difficile de mettre à jour le dispositif de blanchiment. Alors, c'est vrai que les conclusions de mon prédécesseur n'étaient pas très rassurantes. Ça va tellement vite. Je crois que l'AMF, actuellement, l'Autorité de marché financier, qui est un de nos interlocuteurs, qui nous transfère un certain nombre d'informations, travaille beaucoup sur les marchés en nanosecondes. Donc, c'est vous dire des échanges de par côté en nanosecondes, etc. Ça va beaucoup plus vite que nous, il ne faut pas se mentir. Sur le marché du CO2, on a eu un préjudice de 5 milliards avant de se rendre compte de quoi que ce soit, enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc, de quoi on a besoin? C'est vrai qu'on a besoin de textes, et c'était notamment le texte des jeux en ligne, était très important. Tout ce qui contribue à l'identification des opérateurs et des clients est tout à fait essentiel pour nous. Ça va complètement à l'inverse de la libéralisation de la monnaie, de la libération des marchés, de la libération des frontières. Mais bon, nous, on a besoin de ça. Tout ce qui permet la traçabilité des opérations et la conservation des données, c'est tout à fait essentiel. Là. Surtout quand maintenant nos données sont en l'air, dans des nuages. Il faut quand même que c'est tout à fait essentiel. La coopération interadministration, parce que par exemple, Tracfin a la possibilité de s'opposer à une opération bancaire très très rapidement, mais pendant un délai de 48 heures, ce qui est rien, ce qui veut dire que derrière, la machine policière, la machine judiciaire doit pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir avoir les éléments pour saisir. Donc ça va très très vite. Il faut qu'on arrive à accélérer le circuit pour bloquer autant que possible les sommes d'argent, puisque ne nous mentons pas, comme j'ai essayé de vous le dire, le plus important c'est quand même de faire mal où ça fait mal, c'est-à-dire de saisir au maximum les sommes qui transitent, en ayant la base juridique, en ayant les charges suffisantes pour le garder, parce que c'est pas le tout d'arrêter de saisir, de geler, etc. Il faut quand même après pouvoir garder les sommes. Et la coopération internationale, évidemment, est tout à fait essentielle. Tracfin est une cellule de renseignement financier émanant du GAFI, on a la chance d'avoir un regard international qui stimule tous les autres pays, et nous avons une centaine d'homologues à travers le monde, ce qui est quand même un maillage relativement important, très dynamique au niveau Union européenne, avec des échanges dans un temps extrêmement réduit. La seule chose, c'est qu'actuellement, en France, on ne peut pas saisir des sommes sur la base d'une information d'une cellule étrangère. C'est ce que nous essayons d'obtenir pour pouvoir accélérer toujours ça. Parfois, on fait des erreurs, mais voilà. Et puis, ce qui nous paraît aussi tout à fait important, c'est, comme je vous l'ai dit, d'arriver un jour à objectiviser encore plus l'infraction de blanchiment et l'infraction de non-justification de ressources pour pouvoir saisir des sommes dont on ne connaît pas l'origine, sans avoir à chercher l'origine des sommes, parce qu'on se rend compte que, comme il y a une bulle virtuelle parfois du système bancaire, il y a une bulle totalement virtuelle et complexe du blanchiment, déconnectée de la réalité de la délinquance, et que le lien entre les deux aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à le faire, et que c'est aujourd'hui encore nécessaire en France pour pouvoir condamner les gens.
Merci beaucoup.